m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. C'est un grand connaisseur des terres lointaines, ancien administrateur des TAF, les terres australes et antarctiques françaises. François Garde est certes magistrat et haut fonctionnaire, il est aussi écrivain et écrivain voyageur. Il a traversé les Kerguelen à pied, il en a fait un récit, marché à Kerguelen. Et lui qui a été secrétaire général du gouvernement en Nouvelle-Calédonie, il nous a aussi emmené au cœur du Pacifique dans son roman « Ce qu'il advint du sauvage blanc » Goncourt du premier roman en 2012. Le voici qui remonte le cours de l'histoire, cette fois pour nous plonger en pleine période napoléonienne, sur les traces d'un incroyable destin, celui d'un fils d'aubergiste devenu maréchal d'Empire et même roi de Naples par la grâce de Napoléon, roi par effraction de François Garde est paru chez Gallimard, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour François Garde.
Bonjour.
Pourquoi faire de Joachim Murat un héros de roman ?
Il l'était avant moi, si je puis dire. Il a eu une vie absolument extraordinaire, puisque, comme vous le rappeliez, 11e enfant d'un aubergiste du Quercy, il se retrouve général, maréchal d'Empire, prince à Düsseldorf, roi de Naples, donc une carrière extraordinaire. Et puis, il a été à peu près partout où il fallait être au moment des guerres de la Révolution et de l'Empire. Il était de l'Égypte, il était à Moscou, il était de la retraite de Russie, il était à Madrid au moment du Dos de Mayo. Donc il était partout où les choses se passaient et son destin illustre cette période de l'histoire tout en étant profondément romanesque et intime.
Mais comment est-ce que vous, François Garde, vous l'avez rencontré ? Comment est-ce que vous vous êtes dit, ben ce personnage-là qu'on croise comme ça au détour d'un livre d'histoire et la période napoléonienne n'est plus énormément enseigné en ce moment dans l'éducation nationale en France. À partir de quel moment vous vous êtes dit, de ce personnage-ci, je vais écrire un roman autour de lui, autour de sa vie, autour de ce destin incroyable.
Alors c'est vrai que tous les compagnons de Napoléon sont toujours un peu dans l'ombre, tellement Napoléon dégage de lumière. Dans le fameux tableau du Sacre de David, Murat est présent, il porte la couronne impériale sur un coussin de brocart, mais le peintre évidemment met en valeur d'abord le couple impérial. Pour ma part, j'ai rencontré Murat, si je puis dire, tout simplement en visitant le château de Caserte en Italie, où on visite les appartements de Joachim Murat. Et je me suis dit, tiens, un roi français a régné à Naples au début du 19e siècle, mais j'avais pas, voilà, et donc j'ai un peu regardé, et j'étais absolument fasciné par ce destin, cette ascension, et puis la chute aussi,
oui,
bien sûr.
Vous écrivez d'ailleurs, dans toute l'histoire, il est peu d'exemples d'une ascension aussi fulgurante et d'une chute aussi complète. Ce qui vous a le plus intéressé, une fois que vous avez terminé votre manuscrit, François Garde, c'est quoi ? C'est la montée en puissance ou c'est la chute ?
Oh, c'est les deux, puisque il faut monter haut pour tomber de haut.
Certes.
Et ce qui m'a intéressé, c'est aussi toutes les contradictions de cette vie, de ce Français qui a voulu faire l'unité italienne, de ce militaire qui devient un roi et qui exerce le pouvoir civil, de ce traîneur de sabre qui est absolument fasciné par Napoléon, alors que Napoléon a plutôt tendance à le mépriser ou à le rabaisser, de ce couple qu'il forme avec Caroline. Au départ, c'est plutôt elle qui tombe amoureuse de lui. Lui se contente, si vous me permettez l'expression, d'épouser la sœur du patron. Voilà. Et puis à la fin, on va dire que l'amour du couple va changer complètement et se révéler. Donc tout ça fait un destin absolument hors du commun.
Est-ce que c'est le destin d'un imposteur ? Parce que le titre « Roi par effraction », il peut être extrêmement violent. Et on a un peu l'impression, oui, d'un roi par usurpation, d'un roi par vol.
Alors l'usurpateur, c'était le surnom que donnaient les royalistes à Napoléon lui-même. Avec Murat, on est évidemment un ton en dessous. Non, roi par effraction, non pas que je conteste, si je puis dire, sa légitimité à être roi, mais je suis frappé par le fait qu'il a forcé les portes de l'histoire, il s'est fait tout seul, il s'est construit, certes, dans la suite et dans la roue de Napoléon, mais quand même par sa valeur propre, et il a atteint un rang et une destinée dont il ne pouvait pas rêver à 15 ans, à 20 ans ou à 25 ans. Mais néanmoins, à 40 ans, il était roi.
Alors ce mot d'effraction, vous l'appliquez à Murat, on l'a compris, vous l'appliquez aussi à vous-même, c'est-à-dire à celui qui ose en quelque sorte raconter l'histoire de ce personnage. Vous le faites à plusieurs reprises, notamment avec les quelques lignes en italique qui ponctuent les pages titres de chacun des chapitres. Celle-ci, par exemple, qui se trouve en épigraphe à la deuxième journée que vous relatez dans le roman. « Raconter cette vie, écrivez-vous, c'est pénétrer par effraction » dans l'atelier de l'historien et jouer sans gêne avec ses outils. Alors je vous pose la question, François Garde, est-ce que vous êtes un historien par effraction ?
Non. Je suis romancier dans cette affaire-là, mais ça m'a beaucoup intéressé de réfléchir à qu'est-ce que le romancier peut ajouter par rapport à ce que dit l'historien. Parce qu'après tout, il existe d'excellentes biographies de Murat, et on pourrait se dire ça sert à rien de rajouter 300 pages.
Donc il fallait que vous apportiez une dimension supplémentaire à l'histoire avec un grand H.
Il fallait que je me dégage un espace de liberté et d'écriture au-delà de ce que disent les biographies. Donc les biographies mettent en scène les équations politiques, familiales, sentimentales, militaires, analysent les rapports de force. Bien, ça fait 3 pages très analytiques. Et dans le roman, vous pouvez avoir un dialogue entre Murat et sa femme, une engueulade dans le couple, ou avec des arguments qui sont échangés comme ça, dans la vivacité d'un dialogue spontané, on voit se manifester les lignes de force. L'historien va les analyser de manière rationnelle et moi, je vais les mettre en scène. Et puis, autre liberté du romancier, s'il y a une période qui ne m'inspire pas, je peux zapper. Je peux bondir en avant de 3 années, alors que l'historien, lui, est obligé de chroniquer trimestre après trimestre, voire mois après mois.
Donc il y a les ellipses, ou en tout cas les références extrêmement, extrêmement rapides. Et puis il y a aussi le fait, effectivement, que vous nous faites pénétrer à l'intérieur de la psychologie et des émotions des personnages. Et ça pose la question de l'authenticité, parce qu'on en est aux citations, là, justement, pour commencer. Vous citez Duras en ouverture du roman. Quoi qu'on fasse, écrit Duras, on reconstruit Ursenard, plus exactement, Marguerite Ursenard. Je me suis trompé de Marguerite. Voilà, Marguerite Ursenard. Quoi qu'on fasse, on reconstruit toujours le monument à sa manière, mais c'est déjà beaucoup que de n'employer que des pierres authentiques. C'est intéressant ce mot d'authentique, justement, quand on le rapporte à un travail d'historien ou un travail de romancier. Vous faites une différence entre l'authenticité et la vérité, François Garde ?
La citation que vous venez de rappeler, effectivement, elle est issue des notes sur les mémoires d'Adrien de Marguerite Ursenard, qui, elle, avait une méthode extrêmement solide, c'est-à-dire une documentation, une relecture de tous les auteurs antiques, etc. Moi, je suis beaucoup trop paresseux pour faire ça. Donc, j'ai lu, évidemment, un certain nombre d'ouvrages.
Oui.
Des ouvrages sur Murat, mais aussi des ouvrages de la période. Notamment les mémoires de la comtesse de Boigne, qui est un texte extraordinaire, pour se remettre dans la psychologie du temps, dans l'impensé du temps. Puisque nous ne pouvons pas décrire les personnages de l'année 1810 avec notre référentiel d'aujourd'hui. Le rapport au temps, le rapport à la mort, le rapport aux parents et aux enfants, etc., etc., n'était pas le même. Pas tout à fait les mêmes. Donc il faut s'imprégner de cette littérature-là de l'époque pour se mettre dans le ton, dans la manière de penser des personnages de ce temps-là.
Et donc dans une forme d'authenticité.
Alors l'authenticité, elle est reconstruite, si je puis dire. C'est pas. Alors évidemment, par ailleurs, toutes les informations historiques sont exactes. Mais je vous donne un exemple. J'ai imaginé que Murat avait le mal de mer.
Oui. Qu'il a été ensuite fait amiral.
Voilà. Alors, ce qui est authentique, c'est qu'il est grand. Napoléon l'a nommé grand amiral. Et j'ai ajouté qu'il avait le mal de mer. Je pense qu'aucun historien ne peut répondre à la question, avait-il le mal de mer, oui ou non. Mais imaginer qu'il avait le mal de mer rend plus cruel sa nomination comme grand amiral. Donc ça dit aussi d'autres choses que la simple nomination à ce titre-là.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
Avec le romancier François Garde qui publie Roi par effraction chez Gallimard, et c'est à Pizzo que commence votre récit, François Garde. Pizzo, c'est en Calabre, on est dans le sud de l'Italie, on va dire au niveau de la phalange du gros orteil quand on regarde la botte italienne, et c'est là que Joachim Murat débarque le 8 octobre 1815 avec ses partisans pour tenter de reconquérir son trône de roi de Naples. C'est là qu'il est capturé par la foule, c'est là qu'il est emprisonné avant d'être exécuté le 13 octobre après un procès joué d'avance. C'est la trame du livre que vous avez choisi de tisser. Ce sont justement ces 5 jours passés en prison par Murat dans l'attente de la mort. Il y a donc ce qu'il vit dans sa cellule et les souvenirs qui refluent évidemment à l'enfermement, la solitude, l'approche de la fin. C'est une matrice formidable pour que toute sa vie redéfile sous ses yeux en quelques instants. Cette idée-là, cette idée de flashback entre le présent et le passé, elle vous est venue tout de suite ?
Elle m'est venue tout de suite et avec une considération amusante, c'est le fait que Murat a été fusillé le 13 octobre et que je suis né un 13 octobre.
Clin d'œil de l'histoire.
Non, du tout pas, mais c'était quand même amusant, et donc c'est ça qui m'a donné l'idée de dire, ben voilà, on va parler de ces 6 journées d'octobre et raconter la vie de Murat, du point de vue de Murat dans sa prison alors qu'il attend son exécution. Ce qui permet effectivement d'alterner, on va dire, des passages plus méditatifs où il s'interroge sur son rapport avec son épouse, son rapport avec le pouvoir, etc. Et puis des scènes qui sont celles qui reviennent dans la tête de Murat. Il revit son histoire. Alors c'est évidemment dans l'ordre chronologique pour que le lecteur ne se perde pas. Mais je pense que dans la vraie vie, les souvenirs reviennent de manière plus chaotique. Donc je les ai mis un peu dans l'ordre, ce qui permet donc les ellipses à certains moments, ce qui permet de ne pas parler de tout. C'était pas l'objectif, mais que tout ça fasse sens et que les méditations de Murat enfermées se mettent en miroir avec l'histoire de l'ascension et de la chute de Murat.
Mais vous n'avez pas été tenté, François Garde, de dire « je », de vous mettre réellement à la place de Murat, de lui faire écrire, je ne sais pas moi, justement un journal de captivité dans lequel il se remémore son vécu, son histoire ?
Non, j'ai pas eu cette idée-là. Je préfère ne pas me mettre dans la tête de Murat et le regarder agir. Je crois que
pour être plus cruel comme ça.
D'abord, c'est plus cruel, et puis pour se mettre dans la tête d'eux, il faudrait vraiment complètement assumer l'idéologie du temps, etc. Et ça, je pense que je n'aurais pas été à même de tenir le pari suffisamment longtemps. Donc, je regarde Murat agir, je le regarde réfléchir, et je raconte cette histoire.
Alors, Joachim Murat est né le 25 mars 1767 dans le sud-ouest de la France, à l'Abbastide Fortunière, qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui l'Abbastide Murat. Rien ne destinait ce personnage, vous le disiez tout à l'heure, à devenir roi, à vivre sous les dorures et avec les honneurs. Il est né donc fils d'aubergiste, et c'est à cheval, si l'on en croit le roman, hein, bien sûr, que son destin s'invite à l'auberge. Il prend les apparences d'un cavalier qu'il rencontre dans l'écurie de son auberge. Il est tout petit garçon à l'époque, il monte sur la selle de son cheval, et c'est ce cavalier-là, dont on ignore le nom, qui va le mettre en selle, finalement, pour tout le reste de son existence.
Le cheval joue un grand rôle dans la vie de Murat, puisqu'il était cavalier, il a commandé la cavalerie de la Grande Armée. C'était un hussard, et il a conduit la plus formidable charge de cavalerie de l'histoire, qui est à Eylau. Et donc j'ai eu cette idée de mettre une scène un peu onirique au début, lorsque le jeune Murat voit un officier de Louis XVI qui passe dans l'auberge familiale, et il y a un petit dialogue entre l'enfant et le cavalier, dont on devine évidemment que ça flèche en quelque sorte son destin, et parce qu'effectivement Murat, ensuite jeune homme, entre au séminaire sur protection des protecteurs de sa famille, mais quitte le séminaire, on ne sait pas très bien pourquoi, probablement une bagarre avec un autre séminariste. Il s'engage dans l'armée contre l'avis de son père, hein, il était mineur. Et dans l'armée, ça va pas durer très longtemps. Il sera exclu de l'armée au bout d'un an. Et donc, il revient sans perspectives aucune à la Bastide, et puis un peu plus loin à Céret, comme commis d'épicerie. Et puis arrive la Révolution.
Et voilà. Et la Révolution l'amène à s'engager. Donc on est en 1787 quand il retrouve justement le chemin de la caserne. Il veut à tout prix en être, en fait. Il sent que c'est le souffle de l'histoire qui passe à portée, et il veut participer. Il partage les idéaux révolutionnaires pour vous, ou il veut justement essentiellement de l'action et participer à l'histoire en marche ?
Il n'a aucune perspective dans l'affaire familiale, puisqu'il est le 11e enfant. Donc on lui dit, en gros, trouve ta chance ailleurs. Et puis, sous l'Ancien Régime, quelqu'un qui n'était pas noble ne pouvait pas être officier, donc il n'avait aucune perspective. Et lorsque la Révolution arrive, les officiers soit sont guillotinés, soit s'exilent. Donc il y a une espèce de formidable appel d'air, et ceux qui savaient à peu près, qui avaient un peu le goût de cela, pouvaient avoir une ascension rapide. Les guerres révolutionnaires, Valmy, etc., on avait besoin de cadres, et donc on n'était pas nécessairement très, très regardant. Et comme par ailleurs Murat était un militaire extrêmement doué, il a fait une carrière qui était correcte. Il a surtout réussi à survivre à la Terreur, ce qui n'était pas tout à fait garanti d'avance. Il a su prendre le vent, et puis un jour il rencontre un jeune général corse qui s'appelait Napoléon Bonaparte.
Voilà, et donc vous racontez le 5 octobre 1795 comment Murat se fait remarquer par ce général Bonaparte qui a le vent en poupe. Bonaparte réussit à mater l'insurrection royaliste en 1795. Murat, l'apport de Murat est décisif déjà à ce moment-là ?
L'apport de Murat est décisif. Les royalistes étaient plus nombreux que les troupes fidèles au directoire. Mais Napoléon, le directoire, un peu aux abois, fait appel à un général qui était là par hasard. C'était le général Bonaparte, en lui disant « débarrassez-nous de ces gens-là ». Et Bonaparte, très vite, échafaude un plan de manœuvre. Et il remarque, dans la foule d'officiers qui sont là, qui ne savent pas trop quoi faire, il y a un type qui est beaucoup plus grand que les autres, puisque Murat était très grand. Et il lui donne un ordre d'aller récupérer des canons à la plaine des Sablons, du côté de Neuilly.
Voilà, donc à l'ouest de Paris.
Donc Murat emmène un détachement, traverse tout Paris, récupère les canons contre les royalistes, les ramène. Le lendemain, le général Bonaparte les dispose autour de l'église Saint-Roch. Et fait tirer au canon sur les contre-révolutionnaires. Il y a 300 morts. Mais depuis ce jour-là, Murat attache son destin à celui de Bonaparte.
Voilà, et puis une autre date importante, en 1799, donc 4 ans plus tard, le coup d'État du 18 Brumaire. Et là aussi, Murat est là.
Au moment où Napoléon fait un assez mauvais coup d'État, il faut bien le dire, enfin le général Bonaparte, pardon, fait un assez mauvais coup d'État qui va donner à l'installation du consulat, il est assez sérieusement mis en difficulté par les députés du corps législatif qui veulent pas se laisser débarquer sans protester, et c'est Murat qui va entrer de force dans le palais de Saint-Cloud et dire cette phrase célèbre « Foutez-moi tout ce monde-là dehors », parlant des députés.
Voilà, ce qui effectivement va amener Bonaparte au pouvoir par un coup d'État. La force militaire l'emporte donc sur l'Assemblée élue, le consulat est programmé. Et c'est à partir de ce moment-là que va se nouer cette relation si particulière entre Murat et Napoléon. Ce que vous appelez, François Garde, un pacte inégal avec un homme dont la supériorité absolue ne se discute pas. Et c'est vraiment l'impression majeur qui se dégage de votre roman, parce que toute sa vie, Murat va souffrir de ce pacte inégal. Toute sa vie, il va vouloir se faire aimer, se faire reconnaître, prendre toute sa place à côté de Napoléon. Et en fait, il sera en permanence le vassal de Napoléon. Il sera toujours en dessous de celui qu'il a contribué à maintenir et à amener au pouvoir.
Non seulement il sera le vassal, mais il n'imaginait pas d'être autre chose. Mais il n'aura jamais de Napoléon, peut-être à une exception près, le moindre témoignage de reconnaissance de ce qu'il a apporté.
Bon, attendez quand même, enfin, il a été nommé maréchal d'Empire, on lui a offert les ors, on a offert la richesse, on lui a offert le fait qu'il soit roi de Naples, c'est quand même sur décision de l'empereur, quand même. Donc on ne peut pas dire que Napoléon a été un ingrat total.
Oui, il lui a offert tout ça, mais jamais d'affection. Et c'est ça qui manquait à Murat. Bien sûr, comme tous les membres de la famille Bonaparte, l'ascension sociale a suivi celle du général Bonaparte, puis de l'empereur.
Oui, mais la famille Bonaparte, on ne l'a pas encore précisé, c'est parce qu'il a épousé Caroline Bonaparte, qui était la sœur de Napoléon.
Qui était la plus jeune sœur de Napoléon. Mais ce que vous, bien sûr, les honneurs, les ors, le pouvoir, mais ce que Murat n'a jamais entendu de la bouche de Napoléon, c'est une phrase d'estime et d'amitié. C'est ça qu'il voulait. Alors, en tant que maréchal d'Empire, commandant la cavalerie, etc., il a fait ce qu'il avait à faire, même en tant que roi de Naples. Mais à chaque fois, Napoléon, au lieu de lui envoyer un petit mot gentil ou de l'aurait félicité, lui envoyait la petite remarque désagréable en disant, au lieu de dire « votre manœuvre était parfaite », il disait « vos chariots sont arrivés en retard ». Systématiquement, il y avait le petit point désagréable et il n'y avait pas le compliment pour les 98% de la manœuvre qui avait été bien exécutée. Donc toute sa vie, Murat attendra de Napoléon un mot de reconnaissance, d'amitié, de camaraderie. Et ce mot ne viendra jamais, sauf une fois, lorsqu'il prendra la forteresse de Stettin.
Et pourtant, il va effectivement s'illustrer sur les champs de bataille européens, à commencer par la campagne d'Italie, mais pas seulement. Nous sommes page 41 de votre roman, François Garde, la scène se passe le 12 août 1796.
Murat revêt son uniforme de gala. Sa veste mi-longue de drap fin le fait sourire. Deux semaines plus tôt, un fournisseur de l'armée, un Marseillais maigre et cauteleux, qui se vantait d'avoir parmi ses clients rien de moins que le tsar et le sultan, est venu la lui apporter avec force compliments. Mais devant la troupe, il a refusé le colis. « Quoi ? Je paraderais élégamment vêtu pendant que mes soldats resteraient dépenaillés ? Faquin, traître, voleur ! Si les uniformes que je t'ai commandés ne sont pas là dans une semaine, je te coupe les deux oreilles et les dépose sur le bureau de Bonaparte. » Le maraud s'est retiré sous les rires et les huées des soldats, et aujourd'hui a fait porter 180 de vestes, 210 pantalons, quelques dizaines de chemises et de paires de bottes, un coffre rempli de cartouchières, un ballot de couverture, ainsi que de vagues promesses pour la suite. Ces effets sont dépareillés, comme s'ils avaient été dérobés dans des entrepôts autrichiens et piémontais, mais peu importe. Murat a veillé personnellement à leur distribution aux plus démunis de ses hommes. Un tailleur milanais a retouché la veste, pour la rendre plus conforme à la mode parisienne. Désormais, exagérément cintrée à la taille, avec des épaules rembourrées, elle met en valeur la silhouette bien découplée de son propriétaire. Il a reçu le matin même de Paris les épaulettes qu'il a commandées dès sa promotion comme général. Elle porte les étoiles d'or de son grade brodé sur un riche empiècement de velours bleu nuit, le tout reposant sur une infinité de franges et de fils torsadés, dorés ou argentés, savamment enlacés. Ce chef-d'œuvre de passementerie a usé les yeux de nombre d'ouvrières du faubourg Saint-Antoine et représente une dépense déraisonnable. Il finira de le payer, Dieu sait quand. Murat se regarde dans la glace, où l'éclat des galons et des boutons dorés relaie la flamme des bourgeois et contraste avec ses cheveux noirs indomptés et sa peau hâlée. Allons, pour un assaut comme pour une soirée, il faut être irréprochable.
Et il y a plusieurs scènes comme celle-ci dans votre roman, François Garde. Vous insistez énormément sur le rapport de Murat à l'uniforme et aux vêtements d'ailleurs en général. Le vêtement, c'était un bon fil pour dérouler le fil de votre histoire ?
C'est ce que tous les contemporains de Murat remarquaient avec étonnement ou avec amusement ou avec ricanement.
Oui, parce qu'il s'est un peu ridiculisé parfois, en particulier quand il rentre à Varsovie.
Il portait toujours des tenues extravagantes. Notamment des plumes blanches sur son casque. Donc effectivement, quand il défilait sur un très beau cheval, un grand type qui faisait 1m90 avec un mètre de plumes sur la tête, alors ça peut faire penser aux Folies Bergères, mais ça lui donnait évidemment, vu de loin, une prestance et une allure incroyable. Pour autant, lorsqu'il allait au combat, sur un casque moins doré, il avait aussi un cimier de plumes blanches il menait l'attaque en tête et il s'exposait le premier aux balles de l'ennemi. Donc, il y avait cette volonté de paraître et de prendre cette revanche sociale, évidemment, que traduisaient ses vêtements.
C'est un peu la marque du parvenu, quoi. On dirait du nouveau riche aujourd'hui. Mais c'est un peu cette idée.
Et en même temps, c'était l'idée d'être le premier. Et lorsqu'il était au combat, vêtu et emplumé de la sorte, il inspirait évidemment le courage de ses hommes. Il semait la panique chez l'ennemi parce qu'il n'a jamais, sauf en Égypte, il n'a jamais été effleuré par une seule balle alors qu'il a traversé tous les champs de bataille de la Révolution et de l'Empire. Donc ce rapport aux vêtements, effectivement, est tout à fait intéressant, y compris à la fin. Y compris au début, la scène avec le cavalier dont on parlait, donc il éprouve, lorsqu'il est enfant, il voit cette chemise de brocart dont il n'a pas l'habitude dans la ferme familiale. Et puis à la fin, il sera fusillé dans une tenue banale, on va dire. Et donc, les vêtements sont la marque et l'outil de son ascension.
Ouais, et si les uniformes vous intéressent, il y a actuellement à Paris, aux Invalides, au Musée de l'Armée, une très belle exposition intitulée « Les canons de l'élégance », avec notamment de très belles pièces de la période napoléonienne. Exposition ouverte jusqu'au 26 janvier.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec François Garde pour son roman « Roi par effraction » chez Gallimard. Alors on parlait des victoires remportées par Murat sur les champs de bataille, notamment en Italie, mais vous racontez aussi la campagne d'Égypte, vous évoquez Ulm, le Danube, Vienne, les victoires face aux Autrichiens et aux Russes jusqu'à Austerlitz en 1805, Iéna en 1806, et l'eau que vous avez déjà évoqué il y a quelques minutes, François Garde en 1807. Alors l'eau, c'est un peu vraiment c'est le grand moment de gloire du cavalier. C'est un bon exemple de l'audace militaire, de l'audace au combat de Joachim Murat.
La bataille d'Eylau, en effet, est assez extraordinaire. Elle durait depuis 2 jours et l'après-midi du deuxième jour, Murat reçoit enfin l'ordre de Napoléon de charger. Il conduit 15 000 cavaliers. C'est la plus grande charge de cavalerie que connaîtra jamais l'histoire. Et ses instructions sont relativement simples. Traverser de part en part les colonnes russes qui montent à l'assaut des positions françaises qui sont sur une hauteur. Et donc, il traverse avec ses 15 000 hommes. On imagine les morts et les blessés chez les soldats russes qui sont percutés comme par un soc de charrue par cette charge de cavalerie. Quand il a traversé complètement les troupes russes, sa mission est terminée. Ça devrait s'arrêter là. C'était les ordres de Napoléon. Et à ce moment-là, Murat fait quelque chose de totalement dingue, mais qui est absolument extraordinaire. Il reforme ses troupes, sa cavalerie, en tout cas ceux qui tiennent encore debout sur la selle, et il retraverse une deuxième fois les troupes russes, 100 mètres plus bas de la première percée. Donc évidemment, ceux qui pensaient s'en être tirés n'ont encore moins que les premiers vu arriver la cavalerie française. Et donc les colonnes russes qui montaient, après les deux passages, ne sont plus qu'un magma d'hommes qui savent plus ce qu'ils doivent faire. Enfin, et du coup, Napoléon fait donner à la fois l'artillerie et les fantassins. Les troupes russes sont bousculées. C'est un horrible carnage, et l'eau. Mais comme ce sont les Russes qui s'en vont, qui quittent le terrain, c'est une victoire française. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que Murat dit à ses troupes, l'empereur nous a commandé une charge, je lui en offrirai deux. Toujours cette volonté d'aller au bout, d'en faire plus que ce qui lui est demandé.
De forcer la porte de l'histoire et de forcer l'admiration de l'empereur.
Voilà, sauf qu'il se fait un peu engueuler parce que c'est d'une imprudence invraisemblable. Certes, ça a décidé du sort de la journée, ça a donné la victoire à la France, donc très bien. Mais Napoléon lui dit en gros, ne me refaites jamais un coup comme ça. Napoléon avait horreur des surprises.
Voilà, alors vous évoquez donc les victoires, vous évoquez aussi les défaites. On pense notamment à la Bérézina, à la campagne de Russie qui sonne le début de la fin pour l'empereur Napoléon. C'est un épisode clé, mais je voudrais qu'on s'arrête un instant sur un autre épisode, peut-être un petit peu moins connu. Ça se passe en Espagne, en 1808. C'est un moment très ambivalent, je trouve, pour le lecteur, parce qu'on a l'impression que Murat écrase une rébellion dans le sang. On a presque l'impression que c'est un boucher. Je crois que le mot n'est pas peut-être un petit peu fort, mais enfin pas tant que ça. Et en même temps, pour lui, l'Espagne, c'est un épisode extrêmement douloureux. François Garde, il a infligé la douleur, il a infligé le malheur, mais il s'en sort très très mal.
Alors, l'épisode est connu grâce à Goya. Le Dos de Mayo et le 13 de Mayo, ces tableaux célébrissimes de Goya, c'est l'armée française pratiquant effectivement une répression sauvage à Madrid après que les Madrilènes se soient rebellés contre l'occupation française avec les problèmes dynastiques de la famille des Bourbons d'Espagne. Et Murat portait le très beau titre de lieutenant de l'empereur en Espagne et il était chargé du maintien de l'ordre. Et donc, c'est lui qui a donné l'ordre de tirer, c'est lui qui a donné l'ordre de charger. La violence des troupes françaises a beaucoup choqué les Espagnols. Enfin, le souvenir de ce qui s'est passé à cette époque-là à Madrid est encore très vif dans la mémoire collective espagnole. Et là, Murat endosse un rôle qui ne lui va pas du tout, hein, ce rôle de boucher, de chef de la police, je sais pas comment il faut dire. C'est pas du tout son truc, puisque lui, ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire, enfin, son cœur de métier, c'est d'affronter des militaires, mais pas d'affronter des femmes, des enfants. Voilà. Le mot guérilla n'existait pas. Où il a existé dans la langue française à partir de là. Mais comment faire une guerre dont on n'a pas les codes? Il n'y a pas d'adversaire identifié, il y a des civils, il arrête l'incendie quelque part, ça reprend tout de suite à côté. Il est dans une situation intenable. Et cette situation intenable va provoquer quelque chose, moi, qui m'a beaucoup intéressé, qui est qu'au bout de quelques jours après, Murat craque. Il s'enferme, il sort plus de sa chambre, il se rase plus, il mange plus,
il vomit, écrivez-vous, il garde la chambre et il quitte l'Espagne au fond d'une litière.
Il fait grève,
affaibli, humilié.
Voilà, il fait un burn-out.
Physiquement, il le ressent. Et c'est pas la première, enfin c'est peut-être la première fois dans le roman, mais un peu plus tard, lorsqu'il a des gros soucis politiques, ça se traduit aussi par la maladie, ça se traduit dans son corps.
L'extrême contradiction des ordres qu'il recevait, la situation dans laquelle il se trouvait, provoquait un effondrement, une dépression, des larmes. C'est une époque où les hommes pleuraient. Aujourd'hui, les hommes ne pleurent plus beaucoup. Dans les années 1800, un homme pouvait pleurer sans déchoir. Et ça se traduit par une sorte de grève générale. Le corps de Murat fait grève et il est au fond du lit pendant une semaine et advienne que pourra pour le reste. C'est tout à fait étonnant comme attitude mentale, mais en même temps, c'est très intéressant.
Alors, il y a des hauts et des bas, effectivement, dans le destin de Murat. Il est récompensé, on le disait tout à l'heure, par les honneurs, par les ors, par les titres et notamment par ce titre de roi de Naples. Alors, il aimait combattre, disait-on à l'instant, François Garde. Il aimait aussi régner.
Il a découvert cela. Il a eu d'abord un titre de prince en Allemagne à Düsseldorf pendant 18 mois.
Ça lui il a fait ses classes, là.
Ça l'a pas beaucoup intéressé. Caroline n'est jamais allée à Düsseldorf. Lui y était aussi peu que possible. Il faut dire que Napoléon lui avait donné un pied-à-terre à Paris qui était le palais de l'Élysée. Donc, c'est un endroit assez confortable.
Dont il se souvient avec une certaine nostalgie, quand il était dans sa prison.
Qui était sa résidence préférée.
Il y a encore le salon Murat, d'ailleurs, dans lequel se déroule le Conseil des ministres.
Absolument. Donc, Düsseldorf, ça l'intéressait pas beaucoup. Et puis, après l'épisode espagnol, comme Joseph, le frère de Bonaparte, qui était roi de Naples, est mis sur le trône de Madrid, du coup, le trône de Naples est disponible et Murat est nommé roi de Naples. Donc, pour lui, c'est l'accomplissement de son destin. Jamais il ne pouvait espérer atteindre un pareil niveau. Et il va découvrir ce que c'est que le pouvoir. Il faut quand même se rappeler que Naples, à l'époque, c'était la troisième ville d'Europe, derrière Paris et Londres. Donc c'était un pays important, le royaume de Naples. L'Italie du Nord était fragmentée, l'Italie du Centre, c'était les États du Pape. Mais le royaume de Naples, qui incluait la Sicile, le royaume des deux Siciles, c'était un pays pas tout à fait insignifiant. Sauf que la Sicile lui échappera toujours, puisque Ferdinand de Bourbon, le roi historique, on va dire, du royaume de Naples, s'était réfugié à Palerme, protégé par la flotte anglaise. Donc il règne sur le sud de la botte, et il trouve ça extraordinairement sympathique comme métier. Et il apprend au fil des mois, et effectivement, en réfléchissant à son expérience allemande et aussi espagnole, à comment se construire une légitimité. Il est roi par la grâce de Napoléon, mais il cherche aussi à être aimé par son peuple, à prendre des bonnes mesures. Et les Napolitains, dans l'ensemble, ont gardé un bon souvenir de ce qu'ils appellent la décennie française, 2 ans et demi pour Joseph Bonaparte et 5 ans et demi pour Murat, puisque égalité des citoyens, abolition de la torture, création d'une véritable armée, d'une véritable marine, fiscalité un peu moins incohérente, répression sévère du brigandage. Il y a les éléments de la modernité de Naples sont nés à ce moment-là.
Donc il aime cela, même si, comme vous l'écrivez, c'est un roi en laisse, c'est-à-dire que sa liberté, sa marge de manœuvre par rapport à l'empereur Napoléon est quand même très contrôlée.
Il croit qu'il est roi, parce qu'il emporte le titre. Et à plusieurs épisodes, il prendra des décisions que Napoléon contredira ou annulera. Et donc, il vérifiera que la limite de son pouvoir, c'est la décision de Napoléon. Napoléon a autre chose à faire que de surveiller le royaume de Naples, mais quand il prend des initiatives qui arrivent à la connaissance de Napoléon et que ça ne lui plaît pas, Napoléon ne se gêne pas pour les annuler. Et Napoléon était très au courant, puisqu'il était informé par Caroline, par sa sœur, et Murat se plaint que Napoléon sait mieux que lui ce qui se passe dans son royaume.
Alors, venons-en précisément à Caroline, parce que c'est, pour moi, l'un des personnages les plus intéressants du roman, peut-être même encore plus intéressant que Murat lui-même. Enfin, on en discutera dans un instant, parce qu'il aime Caroline, il aime sa femme, et c'est à elle, notamment, qu'il pense, donc en ce jour d'automne 1815, dans sa prison de Pizzo. Nous sommes page 142 de votre roman.
Jamais l'amour qu'il éprouve pour sa femme ne lui a paru aussi absolu. Il ne l'aimait pas lorsqu'il l'a rencontrée, ni même le jour des noces. C'est elle qui l'avait voulu et qui, le manœuvrant et manœuvrant son frère, l'avait eue. Mariage d'amour pour elle, mariage de raison pour lui, comment un couple peut-il se fonder sur pareil déséquilibre? Elle a épousé sciemment cet homme qu'elle n'émouvait pas. Il s'est laissé aimer, non par vanité, mais pour conforter sa position auprès de son beau-frère. Ce n'était pas un malentendu, chacun savait à peu près à quoi s'en tenir. Dès le deuxième soir, il avait découvert une sensation nouvelle, celle d'avoir une femme qui l'attendait, et pas seulement la ronde monotone de ses compagnons d'armes et de débauche. Peu importait le passage dans son lit d'éphémère maîtresse. L'opinion l'admet pour les grands capitaines et pour les rois. Il l'a été l'un, puis l'autre. En 1801, la naissance d'un fils l'a empli d'une joie inconnue et profonde, qu'il n'aurait jamais imaginée. 3 autres naissances ont consolidé leur union. Une dernière grossesse, en 1810, s'est terminée par une fausse couche qu'il a apprise alors qu'il se morfondait dans l'attente de traverser le détroit de Messine pour conquérir la Sicile. Il en a conçu un chagrin déraisonnable, encore augmenté lorsqu'il a appris qu'elle ne pourrait plus porter d'enfant. Car il aimait Caroline désormais. Non pas d'une passion violente et adolescente, qui emporte tout sur son passage et où la raison se noie, tel Bonaparte ridicule au début de son mariage avec Joséphine, mais à sa façon, avec réserve, avec lenteur. Un sentiment d'adulte, voire d'automne. Peut-être depuis quelques années, l'aimait-il plus qu'elle ne l'aimait. Elle l'a ébloui sous les ors de l'Élysée. triomphant avec un sourire timide aux réceptions qu'il donnait pour la plus grande gloire du nouveau régime. Si l'ivresse des victoires ne lui laissait aucune place, elle lui a manqué les soirs de doute, parmi les messages contradictoires et l'énervement de l'état-major. Pensez à elle de loin, au fin fond des forêts allemandes, des plaines polonaises, et puis encore des steppes russes, lui a été nécessaire et douloureux, de plus en plus douloureux. Régente pendant ses absences, elle l'a impressionné par son autorité naturelle, son goût du pouvoir, et même ce côté fantasque qui lui faisait prendre des décisions trop vite, défaut entre deux partagés. Plus que lui, et parfois sans vraie raison ni réel enjeu, elle osait désobéir à son frère.
Alors elle est passionnante, hein, François Garde, la relation très particulière entre Murat et Caroline telle qu'elle transparaît entre les lignes de votre roman. On peut dire que ces deux-là ont appris à s'aimer.
C'est une histoire d'amour très originale, parce que clairement Murat n'aimait pas Caroline lorsque ils se sont rencontrés. Elle avait 15 ans, lui 27 ou 28. Elle remarque ce grand beau gars aux yeux bleus et aux cheveux bouclés. Elle en tombe follement amoureuse. Mais enfin, elle a 15 ans. Donc Bonaparte envoie sa sœur au pensionnat pendant 3 ans. Ça couvre à peu près l'expédition d'Égypte. Et lorsqu'il revient, ils ont échangé en Égypte quelques petits billets, mais qui passaient par la directrice du pensionnat. Donc oui. On imagine que c'était assez tenu. Et lorsqu'il revient d'Égypte, et lorsque arrive le coup d'État du 18 Brumaire, que Bonaparte devient premier consul, tout d'un coup, la valeur de Caroline sur le marché matrimonial augmente considérablement et plein de jeunes gens s'intéressent à la sœur du premier consul. Donc Murat se dit, oh là, et pas de ça, j'étais le premier. Donc il demande la main de Caroline et il l'obtient avec un mariage qui se déroule hors de la présence de Napoléon, sans faste particulier. Et ils vont vivre ensemble pendant, jusqu'à la mort de Murat. Une relation étrange parce que lui aura des maîtresses, elle aura des amants.
Parfois, il y a le scandale qui surgit, Paris se gausse un petit peu, mais l'amour et la relation perdurent.
Voilà, ils ont 4 enfants et ils découvrent aussi cette vie, j'ai envie de dire cette vie bourgeoise, papa, maman et les enfants. Bon, c'est dans le cadre du palais de l'Élysée, mais ce plaisir simple de la vie familiale qui était absolument absent de l'ancien régime, où les enfants étaient confiés à des gouvernantes, à des nourrices d'abord et à des gouvernantes, et ils revenaient dans le cercle social quand ils avaient 15 ou 16 ans, ça commençait à devenir intéressant. Là, le fait de jouer avec ses enfants, de surveiller les devoirs, c'est quelque chose que Murat et Caroline ont fait ensemble avec beaucoup de goût. Et puis ils ont compris assez vite aussi que leur destin était lié. Si Murat divorçait, il n'était plus rien. Et si Caroline n'avait pas d'homme avec elle pour régner ou pour favoriser ses ambitions politiques, elle n'était pas grand-chose non plus. Donc ils étaient liés indissolublement. Et ce lien s'est transformé, je crois, en amour profond.
Donc il y a l'amour et l'ambition. Et c'est ces deux ferments-là, finalement, qui cimentent un petit peu leur union. Il faut dire que Caroline a aussi un vrai sens politique.
Napoléon disait de la plus petite sœur, donc Caroline, qu'elle était née reine. C'est, je crois, dans le mémorial de Sainte-Hélène. Et effectivement, alors que Élisa était intelligente, mais assez réservée, Pauline était belle, mais si j'ose dire, rien d'autre. Caroline était la plus politique des trois sœurs, la plus ambitieuse, et celle qui laissera effectivement sa trace dans l'histoire, puisque chaque fois que Murat partait combattre, et il est parti très souvent, il la nommait régente de Naples, et donc elle régnait véritablement, elle prenait des décisions, elle avait sa cour, elle avait toutes les responsabilités du pouvoir. Elle lui écrivait, bien sûr, au fin fond de la Russie pour lui raconter ce qu'elle faisait, mais enfin, le temps que le courrier revienne, elle avait grosso modo les mains libres. Et donc, elle a été une femme politique et une reine de Naples avec beaucoup de d'autorité. Il y a un tableau d'Ingres qui la représente, qui est assez terrible d'ailleurs, parce qu'il est triste ce tableau. Alors, comme si Ingres avait deviné 2 ans avant que tout ça allait mal terminer. Et elle n'était pas aussi jolie que sa sœur Pauline, mais elle avait une autorité naturelle et un goût du pouvoir qui les ont rapprochés.
Bon, mais elle est quand même un petit peu entre l'arbre et l'écorce, François Garde, hein, entre son frère empereur et son mari. Et en 1811, il y a un décret que va prendre le roi de Naples, que va prendre Murat, pour essayer de s'émanciper un petit peu de cette tutelle napoléonienne qui commence à lui peser. Au départ, elle n'est pas très contente. Et finalement, elle va quand même clairement se ranger du côté de son mari.
Au moment de la crise des décrets, effectivement, Murat décide que pour travailler dans le royaume de Naples, il faut être napolitain. alors qu'il était arrivé avec des officiers, des ministres qui étaient français. Et donc, stupeur, puisque est-ce que tous ces Français vont repartir ? Est-ce qu'ils vont demander la nationalité napolitaine ? Au bout de 15 jours, la réponse de Napoléon arrive en disant « Le décret du roi de Naples ne s'applique pas aux Français ». Quelle humiliation ! Et là, Caroline doit choisir. Effectivement, elle soutient psychologiquement son mari, mais elle ne peut pas exprimer une opinion contraire. Et effectivement, vous disiez qu'elle était entre l'arbre et l'écorce. On peut aussi dire qu'elle a manipulé les deux aussi à sa façon. Elle était assez intelligente pour pouvoir en dire trop ou trop peu. Elle avait ses propres réseaux de renseignement qui étaient aussi pas mauvais. Elle avait sa propre diplomatie. Elle a valsé avec Metternich avant que Metternich ne devienne... Quand Metternich était ambassadeur en France, ça lui a bien servi plus tard. C'était vraiment une femme de tête.
Alors, il y a un mot que vous venez de prononcer, François Garde, c'est le mot « humiliation ». Et c'est un mot qu'on trouve quasiment dans tous les chapitres de ce livre. Murat est humilié en permanence. Il est humilié par Napoléon, il est humilié par Ferdinand, le roi donc qui le tient emprisonné dans l'attente de son exécution. Il est humilié par l'ensemble des gardiens. Parfois, il s'humilie lui-même quand il y aura la trahison ultime, justement vis-à-vis de Napoléon. C'est un mot qui pourrait résumer l'ensemble de votre livre, le mot « humiliation ».
Elle dit aussi l'éthique forte que Murat avait de lui-même,
le sens de l'honneur.
Le sens de l'honneur qu'il avait, le sens du devoir.
Auquel il a fini par déroger.
Oui, il a trahi Napoléon, mais comme je le remarque, lui ne trahissait que son empereur, alors que Caroline trahissait son frère. Ils ont trahi ensemble, parce que c'était la seule solution, et qu'il fallait faire ça pour conserver le royaume de Naples. Ça aurait pu marcher. Comme il retrahira ensuite les Autrichiens pour retourner vers Napoléon, cette double trahison va l'anéantir. Mais oui, cette humiliation, parce que Murat, encore une fois, roi par effraction, ne tient rien par lui-même. Sa valeur militaire ne suffit pas à l'installer solidement sur le trône de Naples. Il l'est parce qu'il est le mari de Caroline et ça lui est rappelé en permanence. Donc il ne peut pas s'affirmer comme un vrai roi. Il est un roi par effraction, mais pas complètement non plus. Et il vit évidemment très mal le fait de ne pas être dans la cour des grands, de ne pas être reconnu comme un égal par les autres rois. Il réussira à accueillir une fois un membre d'une famille royale, qui est la princesse de Galles, l'épouse du futur roi d'Angleterre. Mais c'est une femme un petit peu dérangée, on va dire.
Une scène assez cocasse hein, que vous racontez dans la dernière partie du roman.
Que je n'ai pas imaginé, qui a vraiment existé. Voilà, mais donc les grandes familles d'Europe ne veulent pas avoir affaire avec ce type-là. Donc l'humiliation, elle est permanente.
Roi par effraction de François Garde, paru aux éditions Gallimard. Merci beaucoup.
Yo voy a buscar la llave para abrir tu candado. Yo voy a buscar la llave para abrir tu candado.
Para abrir corazón.
Para abrir tu alma.
Alors, je suis nul en espagnol, Alain Pilot, bonjour.
Bonjour Jean-François, bonjour François Garde.
Alors, vous allez prononcer le titre de la chanson à
la place. La llave y el candado.
Voilà, et c'est Jean-Paul Tamayo avec la participation du Uprising All Stars.
Vous êtes bien en anglais.
Voilà, c'est un petit peu mieux, mais j'ai encore des progrès à faire. Jean-Paul Tamayo, qui est d'ailleurs un artiste RFI talent.
Mais qui nous présente quelques titres de son maxi à venir en 2020 et qu'il va faire découvrir au public parisien vendredi soir au Petit Bain. Après plusieurs années passées entre Bogota et Cali, le franco-colombien Jean-Paul Tamayo est de retour à Paris. Un premier album Sigue Caminando sorti en 2017. Dans son prochain mini-album Sin Limité, il évoque via Extranjero l'exil d'un jeune de 20 ans, le sien sans doute, et son destin avec le recul. Qu'en pense-t-il ?
Alors c'est un mélange de fiction et de vécu puisque je suis né ici. Mais bien sûr j'ai un regard assez précis sur des gens que j'ai pu côtoyer, qui soient colombiens ou pas d'ailleurs. Qui ont pu vivre ce que je décris dans cette chanson. Et mon destin musical, il est enrichi de plusieurs vies antérieures, je dirais. Puisque la musique, pour moi, en tant que métier, est venue sur le tard. Je n'ai jamais rêvé, quand j'étais petit, d'être artiste, d'être sur scène, de chanter. Ça a commencé, quand j'étais à la fac, ça a commencé pour rigoler, on va dire. Et donc, en fait, c'est ma carrière musicale, elle est venue petit à petit. C'est comme si elle était venue à moi. Et, et j'ai mis du temps aussi à l'accepter en fait. Donc c'est assez mûri aujourd'hui. Et en même temps, heureusement, je garde un regard toujours très 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 frais. Je suis toujours un enfant quand je m'émerveille devant des sons, devant des artistes. Ça, c'est important. Et donc, je dirais que ma carrière musicale, j'en suis au début, moi, je dirais. Voilà, ça débute.
Jean-Paul Tamayo qui a convié sur l'une de ses prochaines compositions un compatriote alors.
Et oui, c'est la liberté du musicien comme du romancier. Il a convié le rappeur Roca des célèbres groupes La Clica et Tres Coronas.
Alors Roca, il est franco-colombien comme moi. C'est bien sûr, ça a été, c'est ce qui a fait qu'on s'est rapprochés depuis ces dernières années. On nous a présenté et puis lui, il habite Bogota et moi, à ce moment-là, j'habitais aussi Bogota. C'est en 2014. Et ça faisait un moment qu'on avait envie de faire un son ensemble. Et là, ça a été l'occasion. On a fait ce son qui est hybride entre hip-hop et salsa. C'est ni l'un ni l'autre et c'est les deux en même temps. Et puis, on est très très contents. Ça s'appelle El Precio et ça sort très très prochainement.
Hey yo, en bas du bloc, ça bigra vénère même les jours fériés. Entre Yankee et Schlag, la bague rôde autour du terrier. Le band se réveille avec une dalle de contrarié. Un nouveau jour, un nouveau billet, soupire le guerrier. La nuit, on descend tous au Paname. On laisse derrière tous les drames. On va se jailler dans les clubs entre champagne et mesdames. Sa vie d'apparence dans un monde où tout est mis à la vente. L'amour à 60, la pipe, ça te chante.
Alors ici c'est El Precio et le titre avant Jean-François c'était Extranjero.
Merci de cette précision.
Et le R roulé, Jean-Paul Tamayo voilà. Avec Roca. Tamayo qui reprend La Llave y el Candao, on l'a entendu tout à l'heure, de Charlie Palmieri. La Llave qui signifie la clé en espagnol. À ce propos, dans la musique, que pratique Jean-Paul? Quelle clé utilise-t-il?
Oula, ça c'est... Il y a plusieurs clés en fait. Alors en plus, moi je pensais que vous alliez parler de la clé, la clave, donc rythmiquement. La clé...
C'est La Llave, oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Donc ça c'est une question de rythme. Après, en portée musicale, ça reste des adaptations de jazz, de rythme afro-cubain, donc de partitions assez élaborées. Mais c'est effectivement ce que je veux dire en signe limité. En même temps, on peut faire évoluer cette musique, on peut se détacher complètement de la partition et mélanger aussi des genres et des rythmes. Et par exemple, le duo avec le rappeur, pour moi, c'est assez cohérent parce que dans la salsa, il y a les pregones, il y a les parties improvisées du chanteur. Et un rappeur, dans le freestyle, c'est quelqu'un qui aussi improvise énormément, en rime également. Donc voilà, donc c'est ma vision des choses. Il s'agit un peu de sortir des sentiers battus, pourquoi pas casser des codes. Mais bon. Pour l'instant, je chante toujours en espagnol, je chante toujours sur des pregones, avec de la percussion afro-latine, avec la clave aussi. Donc voilà.
Sin Limité, je l'ai prononcé correctement, Alain?
Perfecto.
Eh ben, voyez, je progresse. Merci beaucoup. Sin Limité, le titre du maxi de Jean-Paul Tamayo, publié au début de l'année prochaine. Jean-Paul Tamayo en concert le 1er novembre à Paris, au Petit Bain, dans le cadre du festival Ville des Musiques du Monde. Et puis, ce mini-album, Sin Limité, sortira au début de l'année prochaine sur Uprising Music New York et RFI Talent, distribué par Warner Music Group. Voilà, j'ai tout dit. Merci, Alain. Dans un instant, le journal. À demain avec Colline Serrault. Vous savez, la cinéaste de la crise, Trois hommes et un couffin, où la belle verte, elle publie un livre chez Actes Sud intitulé Hashtag Colline Serrault, et vous m'en direz des nouvelles.
Littérature sans frontières.